Le monde de l'emploi est-il inclusif? Aujourd'hui, à Point commun, on s'intéresse à l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap pour que tous puissent non seulement gagner leur vie, mais aussi s'épanouir dans un travail stimulant et gratifiant. Plusieurs aspects sont à considérer. L'accès à une bonne formation, le choix d'un parcours professionnel qui convient à la personne et des employeurs qui donnent une chance égale à tous les candidats. Pour ce faire, il faut un recrutement inclusif et des environnements de travail adaptés. Il existe des outils et des ressources pour faciliter le parcours professionnel de tous et nos intervenants aujourd'hui sont justement là pour nous les présenter. Pour mettre la table, je reçois Franck Bouchard du Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées, le CAMO, qui est un organisme habitué des studios de Canal M.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Donc, en fait, j'aimerais qu'on rappelle la mission du CAMO, du Comité d'adaptation de la main-d'œuvre, pour, entre autres pour les auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui, qui nous écoutent.
Alors, pour ce qui est du CAMO, nous, on est un organisme qui œuvre évidemment au niveau de l'emploi pour les personnes handicapées, mais on n'est pas nécessairement un organisme de service comme tel, dans le sens où une personne handicapée, par exemple, se chercherait un emploi. On n'offre pas de service d'aide à cet égard-là. Toutefois, on a plutôt un rôle en ce qui a les personnes handicapées rencontrent pour intégrer le marché du travail, faire également, donc, à partir de ces obstacles-là, des propositions, des solutions, trouver des façons de faire qui vont augmenter, réduire ces obstacles-là, éliminer ces obstacles-là pour que les employeurs, effectivement, soient davantage ouverts et que les personnes handicapées soient davantage présentes sur le marché du travail. Donc, c'est plus dans ce créneau-là, si j'ose dire, qu'on intervient.
Donc, c'est pas comme un centre local d'emploi, par exemple, où est-ce qu'on va aller d'abord vérifier les babillards qui sont inscrits, où il y a des offres d'emploi qui sont affichées.
Effectivement.
Ça va être quelque chose de plus pointu dans votre cas.
C'est plus pointu dans le sens où, comme je disais, on fait davantage d'observations, essayer de trouver c'est quoi les problématiques. On travaille également beaucoup avec les employeurs depuis quelques années, surtout ce qui concerne justement le développement de pratiques plus équitables en matière d'emploi, développer des façons de faire que les employeurs seront plus ouverts, plus réceptifs, vont permettre d'entrer en emploi des personnes handicapées de façon plus aisée. Donc, on travaille beaucoup en termes de formation, sensibilisation, diffusion d'outils, etc., avec des employeurs qui souvent ont, ceux avec lesquels on travaille, ce sont souvent des employeurs qui ont certaines obligations légales, donc on essaie de les appuyer pour que ces obligations-là ne soient pas quelque chose qui trouve difficile de mettre en place, mais qui trouve profit là-dedans et profite des compétences que les personnes handicapées ont de plus en plus. Donc, c'est ça qu'on essaie de développer comme attitude, comme philosophie auprès de ces employeurs-là.
Et on trouve justement un taux de diplomation qui est de plus en plus grand chez les personnes vivant avec un handicap, mais l'entrée sur le marché du travail est toujours difficile. Quels sont les obstacles principaux que vous constatez?
Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, de plus en plus, les gens vont vers des études postsecondaires, terminent avec des compétences. On a vu une augmentation très importante dans les dernières années de la présence de personnes dans les universités, dans les collèges. Donc, de ce point de vue-là, il y a un développement extrêmement intéressant de la part des personnes pour aller chercher des compétences qui sont demandées sur le marché du travail. Pour ce qui est des employeurs, effectivement, il y a encore du travail à faire par rapport à leur ouverture, par rapport à leur capacité de faire de la place à ces personnes-là. Justement, si on s'est intéressé à faire des choses auprès des employeurs, c'est qu'on constatait, c'est encore qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de, disons-le, de préjugés.
Mm-hmm. C'est une réalité,
effectivement.
Il ne faut pas
le cacher. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Et on essaie, nous, dans la mesure de nos moyens, d'essayer d'ouvrir ces employeurs-là davantage, de leur dire, mais écoutez, il y a des besoins de main-d'œuvre que vous vivez, il y a peut-être des pénuries dans certains secteurs. Intéressez-vous à cette clientèle-là, à cette main-d'œuvre-là qui est allée chercher des compétences. Vous disiez auparavant, il n'y a peut-être pas beaucoup de compétences, les personnes handicapées. Fait que c'est pour ça que je ne les embauche pas. Maintenant, ils n'ont plus nécessairement cette raison-là d'évoquer le fait qu'ils embauchent plus ou moins des personnes handicapées. Ce qu'on essaie maintenant de développer, c'est davantage de dire, bien, c'est une opportunité, aller chercher ces personnes-là, essayer de faire de la place, revoyer aussi vos façons de faire, vos pratiques, pour que ce soit davantage inclusif, davantage possible d'embaucher des personnes handicapées. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de craintes, beaucoup de préjugés, beaucoup de vision que la personne, ça va coûter plus cher à embaucher, la personne ne sera pas productive, etc. Il y a toutes sortes de mythes qu'on essaie justement, quand on rencontre des employeurs, de défaire ces mythes-là et leur dire, mettez de côté ces mythes-là, travaillez plutôt sur la base qu'il y a des personnes qui ont des du potentiel et essayer davantage d'exploiter ce potentiel-là. Oui, ça peut signifier une façon de faire différente dans l'organisation de votre travail, mais si vous avez vraiment une volonté d'embauche, il faut penser à cet élément-là.
Exact. C'est donc de mettre l'accent sur les capacités et les compétences de la personne plutôt que ce qu'on perçoit comme une limitation.
Effectivement. C'est vraiment le discours qu'on essaie de tenir auprès de ces employeurs-là.
Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus réceptifs à vos conseils en manufacture, par exemple, en services informatiques? Est-ce qu'on peut dessiner une tendance?
Ben, c'est dur de dessiner une tendance. Nous, on travaille, c'est sûr, avec une portion du marché de l'emploi. Comme je disais, on travaille davantage avec les entreprises qui ont peut-être certaines obligations légales. On parle évidemment de grandes entreprises ou de grandes organisations publiques, parapubliques. Donc, c'est très variable les types d'emplois dans lesquels sont présents ces entreprises-là, ces organisations-là. Je dirais que c'est toujours une volonté de la part un peu des entreprises elles-mêmes. Par exemple, dans certaines banques, ils performent très bien, mais d'autres banques à côté qui ont les mêmes obligations légales ont peut-être plus de difficultés ou moins de volonté, ou en tout cas n'en font pas autant que leurs concurrents par rapport à mettre en place des ressources ou être vraiment avoir une volonté, une philosophie de dire « OK, on fait de la place aux personnes handicapées ». Pour nous, c'est une valeur de l'entreprise. Donc, il faut vraiment que ça vienne, effectivement, si on veut que ça fonctionne, il faut que ça vienne un peu de la philosophie d'en haut. La philosophie d'entreprise doit vraiment être, à partir d'en haut, dire, ben, nous, on fait de la place en termes d'équité à tous les gens, immigrants, femmes, personnes handicapées aussi, dans la même mesure où on va faire des efforts pour arriver à avoir cette représentativité-là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas, c'est difficile d'identifier un secteur plus précis, mais les entreprises où ça fonctionne le mieux, c'est quand elles adoptent cette philosophie-là, cette vision des choses.
Et il y a par contre les obstacles d'architecture, d'environnement qui constituent quand même des principaux enjeux pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on combat ça? Comment est-ce qu'on affronte ça?
C'est sûr qu'en termes légaux, au Québec, il n'y a malheureusement pas beaucoup encore de poignes, si j'ose dire, par rapport à obliger les propriétaires d'immeubles ou les entreprises à rendre accessible tout leur environnement au niveau architectural, où certains vont le faire d'emblée, d'autres encore, c'est très variable. Donc, c'est sûr que ça reste un obstacle important pour les personnes effectivement à mobilité réduite. Si on n'a pas accès à l'immeuble, si les étages ne sont pas accessibles, ça vient tout de suite de réduire le champ des possibilités pour la personne en termes de recherche d'emploi et d'intégration d'emploi. Est-ce que ça prendrait un code des bâtiments plus avec plus de dents, plus d'obligations? C'est fort possible que ce soit le cas. Si on regarde dans d'autres juridictions, en Ontario ou ailleurs, par exemple, on voit qu'ils ont mis en place des choses plus coercitives, en tout cas des obligations plus importantes là-dessus, qui donnent des résultats. Donc, c'est certain que ça, c'est un obstacle que là-dessus, est-ce que c'est en dehors de la sensibilisation, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des choses plus coercitives? C'est quelque chose, en tout cas, qui sera à examiner, c'est certain. On a beaucoup, beaucoup encore d'immeubles qui ne sont pas accessibles et les rendre accessibles, ben, ça reste de la bonne volonté un peu des propriétaires de ces immeubles-là.
Tout à fait. Donc, des gens qui ont justement cette philosophie-là d'inclusion vont être plus proactifs dans l'aménagement de leurs espaces.
Il y a certains éléments, par exemple, de lois qui ont été mis en place dans les dernières années, par exemple, dans les villes, dans les municipalités, où il y a des obligations de mettre de l'avant des plans d'action pour l'intégration des personnes handicapées. Alors là, il y a une certaine volonté de rendre accessibles des choses, des immeubles, etc. Même chose pour ce qui est de certains organismes publics, parapublics. Mais c'est sûr que ça reste dans le domaine public, d'une certaine manière. Les organisations privées n'ont pas nécessairement ces obligations-là. Elles ont des obligations, des fois, d'embauche. C'est sûr, dans ce contexte-là, elles vont dire, si je veux embaucher des personnes, je devrais rendre... Le mieux, c'est de rendre mes installations également accessibles pour tout le monde. On essaie de travailler dans cette philosophie-là, par exemple, au niveau d'entreprises privées, qui, là, on dit, si vous avez des obligations, examinez vos installations. Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'il y a des choses à faire?
Est-ce qu'il y a des programmes qui peuvent soutenir ces entreprises-là qui choisissent de faire des adaptations?
C'est des programmes, disons, davantage reliés à lorsque j'embauche une personne. Emploi Québec, par exemple, dans le cadre du contrat d'intégration au travail, qui est un programme, donc, va donner des sous pour permettre de rendre accessibles les immeubles ou installer des portes, etc. Donc, mais c'est sûr que le budget disponible est relativement limité. La dépense, installer un ascenseur, par exemple, ça va au-delà des capacités de ces programmes-là. Donc là, c'est autre chose. Donc, c'est sûr qu'il existe un peu de soutien, mais si c'est très important comme adaptation, c'est plus difficile à ce moment-là de le faire, d'avoir des mesures qui vont aider l'entreprise.
À ce moment-là, on viserait plus l'environnement immédiat de travail de la personne.
Effectivement.
Donc son bureau, ses installations comme ça.
C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'un employeur il peut trouver d'autres solutions. Est-ce qu'il y a moyen, bon, si mes étages ne sont pas accessibles, est-ce qu'il y a moyen d'aménager plus au rez-de-chaussée? Si c'est juste l'entrée qui porte problème, est-ce qu'il y a moyen d'aménager quelque chose au niveau de l'entrée? Pour au moins la personne, bon, à la limite, l'employeur fait un certain effort dans la capacité qu'elle peut le faire, mais on va pas dire à la personne, à l'employeur, de dire, ben, vous devriez adapter tous vos étages. C'est l'idéal, mais si vous êtes capable de faire des choses, vous pouvez même donner accès à la personne, ben, allons-y.
Voilà l'idée est aussi
d'être
fonctionnel.
C'est ça.
Il nous reste quelques minutes. Je voulais aborder la question des handicaps plus invisibles. Donc, on pense aux troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, difficultés d'apprentissage comme la dyslexie. Ce sont aussi des obstacles que les travailleurs rencontrent. Comment est-ce qu'on conjugue ça?
Bien, c'est sûr que les obstacles que les invisibles ou les handicaps invisibles, souvent les gens vont, vu que c'est pas visible, vont essayer souvent un peu soit de les cacher ou dans ce cas de pas en parler ou de pas demander des choses. Sauf que dans le concret, ils vont se créer des obstacles. On parlait justement de troubles d'apprentissage, dyslexie. Est-ce que la personne qui a des problèmes de lecture va avoir de la difficulté à faire son travail? Si elle a de la difficulté à lire les documents ou on lui laisse moins de temps à lire, même au niveau de l'entrée en emploi, ça peut poser problème. S'il y a des examens, par exemple, écrits à faire ou lire des choses, est-ce que la personne sera à ce moment-là, risque d'échouer son test et ne sera pas embauchée? Mais elle n'aura pas nécessairement signalé cette problématique-là. Donc, on essaie aussi de sensibiliser les employeurs à cet égard-là, de dire, ben, parmi vos employés, il y a sûrement des gens qui ont des problèmes, des handicaps que vous ne soupçonnez pas. Essayez d'être attentif aux problématiques. Est-ce que les personnes c'est peut-être à cause justement d'un trouble X, Y, Z que les personnes sont peut-être moins performantes. Mais c'est sûr que les personnes elles-mêmes, souvent, ne vont pas nécessairement manifester des besoins ou dire à l'employeur, ben, j'ai des problèmes de lecture. Il y a toujours un certain malaise.
C'est un peu intimidant,
effectivement. C'est sûr qu'une personne, quand c'est visible, ben, la personne, à quelque part, elle n'a pas le choix un peu de dire autour à son entourage, ben, j'ai des handicaps, j'ai des besoins d'adaptation. C'est plus facile peut-être de briser la glace à cet égard-là. Lorsque c'est moins évident, ça reste encore un peu difficile.
Franck Bouchard, si on veut contacter le CAMO pour rapidement en terminant l'entrevue avec vous, comment est-ce que ça se passe la procédure?
Ben,
Qu'est-ce qui se passe? Le mieux,
c'est d'aller peut-être sur notre site web, donc le www.camo.qc.ca. Sinon, nous écrire également au CAMO, à commercial, camo.qc.ca. Et nous, on a aussi un rôle un peu, des fois, de répondre aux besoins des personnes qui cherchent de l'aide, ben, un peu aussi aide et référence. Ça fait aussi partie un peu de notre mission. Si les gens cherchent. Et là, on a une mission au Québec au complet, donc c'est pas limité à Montréal. Donc, peu importe que vous soyez dans n'importe quelle région du Québec, on va essayer de trouver des solutions, des services qui vont répondre aux besoins de la personne.
Parfait. C'était important à mentionner. Donc, un service disponible partout au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.